Est-ce que vous pouvez tourner dans vos Bibles en Daniel chapitre 9, s'il vous plaît? Daniel chapitre 9 nous ouvre une page intéressante en ce qui concerne les derniers jours et la nécessité de prier. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Jésus, avant sa crucifixion, il a reproché les Israélites parce qu'ils n'ont pas reconnu leur de sa visite, l'heure de sa venue. Et comment est-ce qu'il aurait pu faire cela s'il n'y avait pas un moyen de connaître ou de comprendre qu'il devait être là? Alors, est-ce qu'il y avait un moyen où les gens auraient pu savoir que le Messie serait parmi eux à cette époque-là, il y a 2000 ans? Et oui, il y a un moyen. Et ce moyen s'appelle, bien sûr, la prophétie. Parce que Dieu a déjà averti ses prophètes il y a longtemps. Et aujourd'hui, nous allons voir une de ces prophéties qui devait les aider justement à être prêts pour reconnaître le Messie à leur époque. Et ça, même par sa mort. En fait, au 1er siècle, nous apprenons par d'autres sources, qu'il y avait une véritable attente que le Messie vienne. Il y avait beaucoup de faux Messies qui étaient partout dans la région, des gens qui prétendaient être le libérateur d'Israël à cette époque. Des gens avec beaucoup de visions qui ont fini leur jour sur des croix romaines aussi. Mais ces gens-là, ils suivaient plutôt cette opinion générale qu'on avait que le libérateur d'Israël sera un guerrier qui va bouleverser le pouvoir romain, mais ce n'était pas dans les plans de Dieu. Il est intéressant aussi que les archéologues nous montrent que dans les vases qui ont été trouvés à Qumran, donc dans la mer Morte, il y avait un exemplaire de ce livre, livre de Daniel, parmi d'autres livres prophétiques et d'autres écrits qui montraient qu'eux aussi ils attendaient que le Messie revienne à leur époque. On dirait que c'était dans l'air. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, on dirait que la fin du monde, c'est dans l'air aussi. Justement, en venant ici, j'ai vu encore une affiche pour un film qui s'appelle « Les derniers jours ». Je n'ai pas vu ce film, je n'ai pas envie vraiment. Mais c'est le titre qui m'a marqué. Et l'image qui est représentée, ça ne me donne pas du tout envie. Ce n'est pas du tout ce que représente la Bible de toute façon. Mais dans l'actualité aussi, on parle d'une fin désastreuse destinée à cette terre. Et je trouve intéressant que même le cinéma français reprend ce thème. Bon, ça ne me surprend pas trop si le cinéma américain le reprend, parce que c'est une grande histoire et on peut faire beaucoup avec des grandes histoires. Mais tout ça pour dire que c'est dans l'air. Mais n'est-ce pas intéressant que Jésus a dit « Quand le Fils de l'homme revient, trouvera-t-il la foi sur terre ?» Il n'a pas dit « Trouvera-t-il des films sur terre ? Que lira-t-il dans les journaux ?» Non. « Trouvera-t-il la foi sur terre ?» Alors la question avant de regarder cette prophétie, c'est « Est-ce que une prophétie écrite en hébreu il y a 2-3 000 ans, est-ce que ça peut nous illuminer là-dessus? Est-ce que ça peut nous enseigner des choses? Et est-ce qu'il y a des informations que, une fois les avoir lues, nous serons aussi tenus responsables de savoir que le jour du Seigneur vient? Alors, lisons, parce que ce passage se divise d'abord dans une prière. Et puis, ça débouche sur une prophétie, une réponse à cette prière. Et dans ce contexte, je trouve ce que nous allons voir, c'est qu'il y a une relation forte entre la prière, la parole et notre responsabilité. Verset 1. La première année de Darius, fils d'Assérius, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens la première année de son règne. Moi, Daniel, Je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Alors là, vous voyez qu'il y avait quand même une croyance littérale dans la parole de Dieu qui l'a poussé à regarder sur l'actualité, ou l'actualité de son jour. Voyez Darius, le roi dont on parle dans le premier verset. Il venait de prendre le pouvoir. C'est la première année de Darius. Et Darius, il n'est pas un roi babylonien. Il est un roi, là on le dit, Mède. C'est-à-dire qu'il y avait un grand changement de pouvoir. Ce n'est pas la succession des rois. Non, c'est un changement de pouvoir total. Un changement des royaumes. Un bouleversement mondial dans l'ordre des choses. Et ça colle exactement avec la parole de Dieu, avec les visions que Daniel a eues lui-même et qu'il a même interprétées pour les rois babyloniens. Alors Daniel, qui était là, on dirait, vraiment au centre de l'actualité, quelle était sa réponse ? Ce n'était pas l'inquiétude. Non, il regarde dans le livre de Jérémie. Il se rappelle de ce que Dieu a dit avant ces jours. Et qu'est-ce que Dieu a dit avant ces jours? Que Israël sera déporté pendant 70 ans. Et c'est intéressant parce que 70 ans, c'est quand même un chiffre assez arrondi. Avec un gros 7, ça fait un peu spirituel, 70 ans. Mais il n'a pas fait d'allégorie, lui, non? Il paraît que il croyait que 70 ans, c'était 70 ans. Et il croyait. Il sachait donc que, ben, en regardant sa calendrier, bon, il y avait 70 ans. Et puisqu'il y avait 70 ans qui sont écoulés, c'était le moment où Dieu allait libérer son peuple. Alors, sachant que Dieu allait bouger, on dirait de nos jours, enfin, il va faire quelque chose. Qu'est-ce que Daniel fait? Il se tourne vers Dieu. Verset 3 et 4. « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. » On va arrêter là. Première chose, c'est que il ne descend pas dans la rue pour rassembler un grand mouvement des libérateurs pour Israël, non? Aucune partie politique, non? C'est lui et le Seigneur. Dès qu'il repère ses signes, lui, il va dans sa chambre de prière, il s'agenouille et commence à prier. Cette mobilisation qu'il fait est une mobilisation, on dirait, enfin, un peu calme, hein? Mais pas vraiment, pas dans les lieux célestes. Surtout parce que c'est la preuve de sa croyance. Il croyait d'abord dans la parole de Dieu, que Dieu aussi était capable de faire tout ce qu'il a dit. Il en avait la puissance de la faire, mais surtout, ça parle de sa compréhension de la souveraineté de Dieu. Que Dieu dirige toutes choses et il n'y a rien qui s'échappe à son regard ni à sa connaissance. C'est souvent dans ces moments de trouble où nous nous tournons vers une chose ou vers une autre. Ça dévoile où est notre véritable confiance. Daniel, un homme de Dieu mûr dans la foi, il se tourne vers Dieu. Mais, de toute façon, n'est-ce pas la conclusion normale d'une vie qui a commencé bien dans le Seigneur, mais un homme qui a beaucoup souffert. Il était pris en exil pour les péchés de son peuple, il le savait bien. Un homme qui a vécu 70 ans en exil et maintenant qu'il voit Dieu au point de restaurer les choses et se tourne vers Dieu. Et c'est une prière d'un homme de Dieu qui attend des grandes choses. Il attend des grandes choses dans son monde et il les attend à cause de la révélation qu'il a eue lui-même. Mais regardez comment il s'adresse à Dieu, comme un Dieu puissant, un Dieu tendre. Par exemple, verset 4, « Seigneur Dieu, grand et redoutable », ça dit beaucoup. Ou bien, verset 7, « À toi, Seigneur, est la justice, et à nous, la confusion. » Donc, il sait bien où il se situe dans ces choses. Ou bien, verset 10, « Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, en donnant beaucoup d'importance sur la parole de Dieu, en évoquant son nom saint. » Verset 14, « L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste. » Donc, il voit notre Dieu comme un Dieu juste. Eh bien, verset 18, « Mon Dieu, prête l'oreille à nos ruines. Écoute, ouvre nos yeux et regarde nos ruines. » C'est personnel cette fois-ci. Il savait qu'il avait une place. Et qu'est-ce qu'il fait? Chaque fois, il évoque son Dieu. Déjà, nous voyons qu'il voyait bien son Dieu. Il avait une bonne compréhension de qui il était, à qui il s'adresse. Et ensuite, il commence à confesser le péché de son peuple. On l'a déjà dit, mais nous reprenons donc verset 5. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois et à nos chefs à cause de nos pères et à tout le peuple du pays. Alors, est-ce que Daniel est coupable de ces choses? Pourquoi est-ce qu'il emploie le mot « nous » Parce qu'ils ont été déportés à cause de leur péché, toute sa nation. Ils les prennent donc sur lui comme il appartient à cette nation, comme si c'était un peuple. Parce que l'Éternel, il dirigeait Israël comme ça depuis l'époque de Moïse et depuis l'époque de Josué. N'oubliez pas que c'est à cause d'un seul homme, Achan, que tout Israël a perdu la guerre contre le peuple d'Haï en Josué. N'oubliez pas non plus, c'est grâce aux prières d'une personne, Moïse, que Israël a gagné la guerre contre les Amalécites, dans la loi aussi, en Exode. Dieu était en train de les enseigner sur leur appartenance familiale. Ils lui appartiennent en propre. Mais un retour en Israël, ça signifie un retour à Christ, à Dieu. En le faisant donc, en intercédant pour son peuple, il entre dans cette relation marquante, puissante, qui ressemble à celle de Christ. Christ qui intercède en faveur des saints, qui est assis à la côté, à la droite de Dieu. Vous voyez, un Daniel, même s'il est saint, il n'a pas ce qu'il faut pour purifier le péché du peuple. Pourquoi? Parce que Daniel lui-même est un pécheur. Oui, nous ne voyons aucun péché dans tout ce livre de Daniel, mais nous savons que tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu, même Daniel, même vous, même moi. Bien sûr. Pourquoi? Parce que Dieu, il est saint, parfait dans sa perfection. Il n'y a aucune lumière et aucune ombre de péché, de ténèbres. Non. Et celui qui s'approche de Dieu, comme il dit dans le psaume 15, celui qui monte sur sa montagne sainte, il faut qu'il soit absolument parfaitement pur. Et c'est pour ça que Dieu, dans le passé, à l'époque de Daniel, a prescrit des sacrifices des animaux. C'est pour ça que Daniel lui-même, il priait 3 fois par jour lors de ses sacrifices. Mais est-ce que le sacrifice des animaux, est-ce que ça purifie le péché de l'homme parfaitement? Dieu a pourvu pour que l'homme soit couvré, pour qu'il puisse s'approcher de lui. Tous ces sacrifices, ça parle d'un meilleur sacrifice à venir. un agneau beaucoup plus pur, l'agneau de Dieu, l'homme Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est l'accomplissement de toutes ces choses et l'homme ne peut jamais s'approcher de Dieu. Parce que Jésus est donc le chemin par lequel nous pouvons nous approcher de Dieu. Il est ce chemin. Parce que il est la vie et en lui est la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il faut donc que, si vous voulez vivre éternellement, il faut que vous et moi, nous nous tournions vers la vérité qui est Christ, que nous nous repentions de nos péchés, que nous croyions en lui pour recevoir la vie éternelle. Et c'est la seule manière. Et donc, dans cette même manière, Daniel confesse ses péchés. Mais quelle était sa requête? Parce qu'il semble que tout est déjà joué. Mais je pense que c'est ça aussi qui marque la différence d'un homme de Dieu qui connaît Dieu et nous qui ne sommes pas encore arrivés. C'est que même s'il sait que tout est déjà joué, il s'agenouille pour prier comme si tout dépendait sur ses paroles. Regardez ce qui est écrit. À partir de verset 14, l'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Nous n'avons pas écouté sa voix, et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. D'abord, il parle de sa position, de sa relation d'appartenance à Dieu. Parce que Dieu a choisi Israël. Et c'est parce que nous sommes les enfants de Dieu aussi que nous avons cette appartenance, ce libre accès devant le Père aussi. C'est bien de se rappeler dans nos prières comment il nous a rachetés, comment il nous a retirés des feux et de nos propres bêtises. Hein. Parce qu'ensuite même, comme nous, il évoque la miséricorde de Dieu. Regardez verset 16. « Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détourne de ta ville, Jérusalem, et de ta montagne sainte. Car, à cause de nos péchés, des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. » Il évoque la miséricorde de Dieu. Miséricorde. Tellement important aussi pour nous. Encore, ça signale que Daniel, il est aussi pécheur. Franchement, Dieu, il ne nous doit rien du tout. Mais c'est une grâce qu'il nous donne juste de le connaître. Il n'est pas cette attitude que Dieu, il doit faire quelque chose, comme s'il a tellement souffert, il a tellement donné que maintenant c'est son tour à lui. Il n'y a pas du tout ça. Il évoque la miséricorde de Dieu. Sa compassion, sa grâce, il demande miséricorde, la pitié de Dieu, la grâce de Dieu, même si la parole de leur délivrance a été déjà écrite sur l'encre, confirmée par ses 70 ans de captivité. Et puis, il se lance dans sa requête. « Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. » Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille, écoute, ouvre nos yeux et regarde nos ruines, regarde la ville et sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas. par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Regardez les points d'exclamation, les répétitions, les pronoms même d'appartenance pour vous qui aimez la grammaire. Il prie de tout son cœur, même s'il sait qu'il est parfaitement dans la volonté de Dieu. Et ça nous donne aussi une autre question. Dieu allait accomplir sa parole, de ça on est sûr. Mais pourquoi est-ce que Dieu a nommé un Daniel pour prier comme ça? Est-ce que s'il n'y avait pas Daniel pour prier cela, est-ce que Dieu n'allait pas accomplir sa parole? On bannit la pensée, bien sûr. Pourquoi? Parce que si Daniel a refusé de prier, on est certain qu'il aurait élevé un autre pour prier. Et ce qui est donc important, c'est de savoir que nos prières comptent. Vos prières comptent. Enfin, ce que nous avons est une prière exemplaire. Que si vous voulez étudier encore plus profondément, ce n'est pas du tout très éloigné de ce que Jésus nous a enseigné de prier dans le Notre Père, par exemple. Mais qui est tellement efficace, cette prière, qu'il y a un ange qui l'interrompt. Alors quand même, un ange interrompt ses prières, c'est fort. Et ça n'arrive pas beaucoup dans l'Écriture. Nous savons qu'avant la crucifixion, il y avait un ange qui est venu pour fortifier Jésus. Nous savons que Élie, en courant vers la montagne, quand il était tellement déprimé, il priait « Seigneur, que je meure !» Et puis il y avait un ange qui l'a encouragé aussi. Et ici, on a un Daniel, un exemple d'un homme qui dévoile tout son cœur. Et puis, il y a un ange qui l'interrompt. Alors, regardez cette arrivée de l'ange. Verset 20. « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne et de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel... » Donc c'est l'ange dont on a vu il y a quelques semaines. Une chose intéressante, c'est le même ange qui a annoncé la venue de Jésus, n'est-ce pas? Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande de soir. C'est comme dans des visions. Daniel, il ne rêvait pas, il priait. Et comme on a vu, il priait de tout son cœur. Alors il a vu un ange qui volait rapidement vers lui. Mettez-vous dans sa place. C'est effrayant. Surtout sachant que Gabriel était un homme fort et grand. Et Dieu, il lui donne un ange. C'est trop, hein. Mais Daniel, même s'il voit cet ange, il s'entretient avec lui. Il m'instruisit, verset 22, et s'entretint avec moi. Et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Gabriel, il arrive et il lui parle comme un ami. Il parle avec un ange, c'est fort, hein? Qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Bonjour. Bon, il se connaissait déjà. Mais la réponse vient de Dieu en forme d'un ange. Et ça, avant qu'il ne termine sa prière. Alors, est-ce que ça veut dire que, bon, le Seigneur, il s'ennuie un petit peu. Bon, je sais. Ok, d'accord. Bon, Gabriel, est-ce que tu peux l'arrêter? Non. C'est pas que le Seigneur est mal poli. Hein. Non, en fait, ce que ça nous montre, c'est que combien d'abord le Seigneur nous écoute, combien il nous connaît, avant même que la chose n'ait formulée sur sa bouche, le Seigneur connaît déjà son cœur. Ça montre aussi combien il aime nos prières, combien il est fidèle dans ses réponses, aussi bien que dans ses silences. Mais ça ne veut pas dire que chaque fois que nous nous mettions à prier de tout notre cœur, qu'on va voir Gabriel non plus. Mais attendez, on n'a pas besoin de voir Gabriel. Pourquoi? Parce que nous avons Jésus-Christ dans notre cœur. le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Il faut dire que l'Esprit de Dieu est beaucoup plus fort que les anges que Dieu a créés. Et regardez donc cette merveilleuse prophétie maintenant qu'il est donnée. Et je vous rappelle que c'est une prophétie qui est écrite dans la langue hébreu. Et donc, ça nous donne déjà des indices à qui c'est destiné. Normalement, si on veut parler à quelqu'un, on emploie la langue de cette personne. Par exemple, je vous parle en français, c'est traduit en anglais pour que vous compreniez. Alors, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie et pour rendre le Saint des Saints. Alors, si vous n'avez pas encore fait, je pense que c'est le moment de sortir vos stylos pour écrire, parce que ça devient un peu technique. On parle de 70 semaines. Encore ce chiffre merveilleux. Un chiffre 70 que Daniel, au début de notre chapitre, n'a pas pris comme une allégorie, mais littéralement. Et puis, maintenant, Gabriel dit, ben voilà encore 70 de plus. Mais c'est 70 semaines, il dit, ou bien, en fait, ce mot pour semaine peut dire unité de 7. Pas seulement en hébreu, mais aussi en araméen. C'est une façon de parler qui n'est pas du tout occidentale. Donc, ça pourrait dire 7 jours pour faire une semaine. Ça pourrait dire aussi bien que 7 années pour faire une semaine, si vous voulez, d'année. En fait, le mot littéralement, c'est 77, avec un S à la fin, pluriel, ou unité 7, unité de 70, unité de 7. Et je vous demande de relire le verset, parce que c'est 70 semaines, on va dire juste parce que c'est écrit comme ça, ont été fixées pour qui? Ton peuple. Peuple de qui là? Daniel. Et qui est le peuple de Daniel? Israël. Et ta ville sainte. C'est pas Babylone, c'est Jérusalem. Alors, pourquoi donc pour Israël et pour Jérusalem? Regardez, pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité. Quatrièmement, amener la justice éternelle. Sceller la vision et la prophétie et le prophète. Pour rendre le Saint des Saints. Alors, est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un? Si vous avez deviné Jésus, je crois que vous avez raison. Il est le seul qui a fait tout ça, qui a effacé le péché, qui est la fin de toute prophétie. Il est le seul qui est capable de faire tout ça. Mais, je vous demande, est-ce que Jésus est venu, donc si on fait que le math, enfin, donc 70 semaines par 7, donc est-ce qu'il est venu en 70 semaines normales après ça? Ben non. Peut-être il y a une autre date. Regardez verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Alors, nous sommes heureux parce que, on vient de le dire, c'est au sujet du Messie conducteur. Ça nous dit donc que le Messie, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est lui qui va arrêter la transgression. C'est lui donc qui va sceller la prophétie. C'est lui donc qui va faire toutes ces choses. Mais si vous regardez bien, surtout si vous êtes comme un ingénieur, comme Anton, ou vous êtes bon en maths, comme Cyril, donc vous avez vite repéré qu'il nous manque une semaine. c'est 62, hein, plus 7, c'est pas encore 70. Alors, si vous n'êtes pas encore, si vous n'êtes pas aussi forte, vous êtes comme moi et je devais écrire ces choses pour comprendre. Alors, intéressant, il nous donne une date. Donc, enfin, on peut calculer un petit peu. Quelle est la date qu'il nous donne? C'est le moment où il y a l'autorité donnée aux Israélites de rebâtir Jérusalem. Alors, gardez la place en Daniel chapitre 9 et tournez un petit peu à gauche vers le livre de Néhémie. Donc, c'est donc Psaume, Esther, Néhémie. Néhémie chapitre 2, verset 1. Et là, vous avez la date. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui. C'est là, finalement, ce chapitre dans la Bible nous donne l'histoire où cet Artaxerxès donne l'autorisation de bâtir Jérusalem. Enfin, donc une date. Alors, si nous calculons avec des jours, des semaines normales, il faut dire que Jésus n'est pas venu si on calcule avec les jours. Alors, c'est pour ça que nous retournons vers cette idée que c'est une unité de sept. Et étrangement, ou peut-être pas étrangement, si nous mettons des années pour faire une semaine d'années, donc sept semaines, donc 70 groupes de sept semaines, pour faire un ensemble de 483 ans, je fais le maths pour vous, nous arrivons, donc, depuis cette date en Néhémie, nous arrivons à la date où Jésus entre triomphalement en Jérusalem. Alors, pendant longtemps, les gens, ils savaient que c'était ça, en ce qui concerne l'Église chrétienne depuis l'époque de Jérôme, même avant. Même Calvin et les autres, ils savaient que c'était ça, mais on avait du mal à calculer exactement. Il fallait attendre le 19e siècle pour qu'un Anglais ait la bonne idée de calculer en utilisant le calendrier donc hébreu, puisque c'est pour la ville sainte de Daniel et tout, enfin. On dirait qu'il fallait lire le texte. Et puis, il l'a fait. Et puis, effectivement, tout colle. Gloire à Dieu. Alors, ce qui est quand même fascinant, c'est que ça donnait, et c'était dans la portée des gens de l'époque de Daniel, de l'époque de Jésus, de savoir que Jésus, que le Messie allait venir. Effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, les gens, ils s'y attendaient. Ils attendaient le Messie. Alors, continuons verset 26 parce que ça devient encore plus intéressant. Après les 62 semaines, donc après les 483 ans, le Messie sera retranché. Ben, exactement comme ça s'est passé. Et il n'y aura pas de successeur. Effectivement, il n'y en avait pas. Le peuple d'un chef qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'à ce que la terme de la guerre. Réfléchissons un petit peu sur l'histoire. Après la résurrection de Christ, la mort, bon, Jésus est retranché, comme il est dit dans le texte. C'est pour ça, justement, que les gens devaient comprendre par sa mort et par sa vie, qu'il était là, que Jésus pourrait dire, et c'est pourquoi il a dit, certainement, ça est grâce à d'autres prophéties aussi, qu'il devait être au courant de sa venue. Mais, est-ce qu'il y avait un peuple qui n'était pas grand-chose à l'époque de Daniel, qui est venu après donc la mort de Christ, qui a détruit Jérusalem? Ben oui. Les Romains, n'est-ce pas? Et effectivement, c'est Jésus qui l'a prédit aussi. Rappelez-vous, en Matthieu 24, les disciples regardaient vers le temple. Ils regardaient toutes ces belles structures. Et Jésus, dans sa façon étonnante de le dire, comme il le fait toujours, il disait, voyez toutes ces belles pierres? Il ne va pas rester une sur une. Alors, ça, effectivement, a donné une douche froide à cet émerveillement. Puis, ils avaient beaucoup de questions. Plus tard, bon, on pense donc qu'il descend la vallée, il remonte sur le mont des Oliviers qui donne effectivement sur le temple. On peut très bien imaginer, il gratte la tête en pensant, bon, comment ça va se passer, en regardant ce temple. Et puis, ils disent, bah, comment est-ce que ça va se passer? Quels seront les signes de la fin du monde? Parce que pour eux, détruire le temple, c'est la fin du monde. Et Jésus, c'est lui donc qui dévoile comment les Romains vont le faire. Et il utilise le langage de cette prophétie-là dans plusieurs parties de Matthieu 24. On n'a pas le temps de regarder aujourd'hui, donc je vous le donne une autre fois. Alors, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, donc 7 ans. Et au lieu, parce qu'il faut dire, hein, si on a commencé avec des périodes d'années, ce n'est pas la peine de changer dans une période de jours. Ben Dieu est beaucoup plus cohérent que ça. Il fera une alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur ou l'abomination de la désolation. C'est là où vient la controverse, parce que si nous gardons donc ce sens littéral, et c'est ce qu'on tâche de faire, parce que si tout a été littéral depuis ce moment-là, c'est quand même bizarre si Dieu, il change. Et du coup, ça devient allégorique. Hein? C'est comme Dieu, il joue à cache-cache avec nous, alors que ce n'est pas du tout la façon, les manières de notre Seigneur. Mais depuis la mort de Christ, il n'y a rien qui colle littéralement avec ça. Même si on veut utiliser Tite et la campagne romaine contre le peuple d'Israël, parce que c'était beaucoup plus lent que 7 ans. Et le reste ne colle pas parfaitement, pas aussi bien qu'avec tout ce qu'on a dit. Nous savons donc qu'aujourd'hui, après la mort de Christ, c'est l'époque de l'Église. Mais là, on parle de la destruction. Est-ce qu'il n'est pas possible que, puisqu'il a commencé à parler d'Israël, qu'il ne continue pas à parler toujours d'Israël? Et que ça ne rejoint pas ce que nous lisons en Romains 11, verset 25? Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme des sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon ce qui est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Est-ce qu'il n'est pas possible que donc nous parlons d'une époque après que Jésus revienne pour l'Église? Et puis nous parlons encore d'Israël comme on a parlé depuis le début, puisque Dieu est un Dieu d'ordre. L'alliance de Jésus est éternelle. Alors, si l'alliance de Jésus est éternelle, comment pourrait-on traduire verset 27 en parlant de Jésus? Comme Jésus fera une alliance avec plusieurs pendant une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Ça ne colle pas. C'est comme il nous a menti. Alors peut-être ce n'est pas Jésus, le « il » dont on parle. Et peut-être on parle toujours donc de ce peuple et de ce chef de peuple, de ce prince dévastateur. Alors mettons-lui à la place de ce « il » dans le verset 27. Donc, ce n'est pas Jésus qui fera une alliance avec plusieurs pendant une semaine, donc pendant 7 ans, mais le chef dévastateur qui viendra et fera une alliance solide avec plusieurs pendant une semaine pour faire cesser le sacrifice et l'offrande. Et est-ce que ça ne colle pas avec une autre prophétie qu'on a déjà vue en Daniel, où il y avait Antiochus IV qui a fait cesser le sacrifice et l'offrande En Daniel chapitre 8, c'est lui donc, on a déjà parlé, je suis désolé pour vous qui ne suivent pas, mais c'est en ligne, donc c'est à votre portée. Si vous voulez, tous ces enseignements sont en ligne pour que vous suivez bien. Effectivement, ça suit la même logique pour que cela arrive. Il faut donc cesser les sacrifices à Jérusalem, n'est-ce pas? Alors, réfléchissons un petit peu maintenant sur la Jérusalem actuelle. Il y a plein de choses dans cette salle qui nous fait penser à ça. Où est le temple? Effectivement. Aujourd'hui à Jérusalem, le savez-vous, il y a des gens qui sont un peu radicaux dans leur judaïsme, qui ont préparé tout pour le sacrifice, pour que ils ont tous les ustensiles, ils ont tous les chandeliers, ils ont même, pour vous qui connaissez bien la loi, ils ont même cette vache rousse, je crois, et ils ont bien tout préparé, ils ont tous les vêtements sacerdotaux, tout est prêt pour recommencer le sacerdoce. Il manque une chose. Et puisqu'il manque une chose, et tout le monde le sait, essayez d'aller sur l'esplanade de la mosquée avec une Bible en main. Impossible. Ils vont retirer ça de votre main dans une seconde. Il y a énormément de sécurité parce qu'ils craignent le pire. Et ce serait le pire si ça arrive. Hein. Et on ne le souhaite pas. Et c'est pour ça que beaucoup travaillent sur cette question épineuse sur l'esplanade du temple ou du mosquée qui est au centre de ce conflit. Est-ce qu'il n'est pas possible qu'une alliance conclue sera une alliance qui va résoudre ce problème? Comme pensent certains, est-ce qu'il est possible que quelqu'un va être habile et très rusé pour pouvoir satisfaire tous les enjeux de tout le monde, même un temple? Ce qu'on sait, c'est qu'en 2 Thessaloniciens 2, chapitre 4, l'Antichrist entre dans le temple de Dieu et s'assoit et se proclame lui-même Dieu. Alors si, oui, je crois que ça explique beaucoup. Et du coup, si on réfléchit un petit peu sur ce qui se passe dans le monde, dis donc, on n'est pas très loin. Mais, quoi qu'il en soit, personne ne sait ni le jour ni l'heure. Mais tout ce qu'on voit, ce sont des signes. Mais si nous voyons tellement de signes, c'est parce qu'il est même à la porte. Il peut revenir même aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui empêche? En conclusion, Daniel, il savait que Dieu était en train de réaliser le désir de son cœur, qu'il allait bouger le ciel et la terre pour le faire. Et qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il se met à genoux pour prier. Et ce comportement a tellement plu au Seigneur qu'il envoie Gabriel pour lui donner encore une prophétie qui nous donne aussi la capacité de comprendre ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Reconnaissez-vous donc que le Seigneur est à la porte, qu'on n'est pas très loin. De toute façon, si il a tardé ces 2000 ans, nous sommes encore plus à la porte qu'à l'époque de Jésus, bien sûr. Qu'allez-vous faire alors? Mobiliser un parti politique? Je pense que la meilleure réponse, est l'exemple de Daniel. En attendant le retour de Jésus-Christ, la meilleure chose que nous puissions faire, à part de donner sa vie à Jésus-Christ, et si vous n'avez pas fait aujourd'hui, c'est le jour et vous pouvez le faire même aujourd'hui. Si vous l'avez fait, la meilleure réponse est de se mettre à genoux et prier. De prier comme on a vu avec Daniel. Et comme ça, je pense qu'il va nous transformer. Et bien sûr, nous serons prêts pour son retour. Prions.